au moment où l'égyptologie battait son plein en Égypte, beaucoup d'archéologues sont venus et on a trouvé très curieux les marchands de Khan el-Khalili ont trouvé très curieux le fait que les Européens étaient prêts à payer des sommes faramineuses pour des vieux morceaux de papier. Donc on s'est largement servi dans la Knisa du Caire au moment de la réfection à la synagogue pour vendre ces morceaux à des touristes, et à des savants, des égyptologues, ce qui fait que, au début, en fait, c'est quelqu'un qui s'appelle Abraham Firkovich, qui était d'origine criméenne, donc russe, qui a été le premier à se servir dans la Gnisa du Caire et se rendre compte de son importance. Il a pu ramener en Russie des milliers de fragments qu'il a vendus ensuite au tsar, qui constituait à cette époque-là, à la fin du dernier quart du XIXe siècle, la bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg, qui est devenue le Saint-Tikhov-Chedrin de Leningrad et qui est de nouveau la bibliothèque nationale de Saint-Pétersbourg. Il a une des collections les plus importantes, et nous allons voir d'ailleurs tout à l'heure, quelques manuscrits qui sont conservés dans cette bibliothèque. Mais on veut dire que après Firkovitch, le grand héros, qui est la pièce maîtresse du saga de la Gnisa, c'est Salomon Schechter, était lecteur d'études hébraïques à l'université de Cambridge, qui s'est rendu compte de l'importance de ces manuscrits qui arrivaient par petits bouts en Angleterre, et il a persuadé le professeur Régis d'hébreu de Cambridge de l'époque, Charles Taylor, de financer une expédition au Caire, quand on est autour de 1890, pour sauver, pour localiser la source de ces manuscrits et les ramener en Angleterre. Donc c'est une très longue histoire. Il a pu se servir des caisses de thé de l'armée britannique pour transporter tout le contenu de la Gnisa du Caire, tout ce qui restait après la dispersion dans diverses bibliothèques russes et allemandes. Et on va dire que la collection plus importante, d'où provient d'ailleurs ce fragment, se trouve à l'université, à la bibliothèque universitaire de Cambridge. Et cette collection porte le nom de TS, c'est-à-dire Taylor, celui qui a financé, et Schechter, S, c'est pour Schechter, celui qui a fait le travail sur le terrain et qui a ramené cette collection. Donc, à l'heure actuelle, il y a des collections à Saint-Pétersbourg, à Berlin, à Tübingen, à Göttingen, à Cambridge, à Oxford, à New York et des petites collections à Paris, à l'Alliance israélite universelle, à Philadelphie. Donc une grande dispersion. Quelqu'un qui veut avoir une vue d'ensemble est obligé de parcourir ces collections. Encore qu'aujourd'hui, il y a un grand projet mondial financé par un grand banquier américain, Friedberg, pour digitaliser l'ensemble de la collection. Et ce projet est assez bien avancé. Il y a des collections entières, les collections mineures ont déjà été digitalisées, par exemple la collection de Paris, la collection de l'Université de Strasbourg. La bibliothèque universitaire de Strasbourg a également une collection qui remonte à l'époque allemande. Et voilà. Donc nous sommes en présence d'un fragment provenant de la Gnisa du Caire, conservé à l'université, à la bibliothèque universitaire de Cambridge, dans la collection TS. Ce fragment a été étudié par le grand orientaliste israélien David Bannett, celui qui a publié le texte de Kuzari, pour ceux qui connaissent l'œuvre importante de Judah Levi. Et nous sommes en présence d'un document extrêmement intéressant qui va... Vous êtes en train de vous demander, mais de quoi, où veut-il en venir? Vous allez voir que ce texte va nous éclairer d'une grande lumière sur le milieu dans lequel on lisait la théologie d'Aristote. Car, الذي أخرج من تركة السديد الشيخ أبو سعد الطبيب. Donc, c'est le nakhlasa, c'est l'héritage du médecin Abu Sa'd al-Tabib, autrement inconnu, mais de toute évidence, malgré la consonance arabe de son nom, il était d'origine juive. Betarikh Yom Hodesh Kislev, donc ça se passe au mois de, on va dire, décembre, novembre, décembre, Shnat Atkab, 1502, mais de l'an séleucide, ce qui correspond à 1170. Ce monsieur est décédé. Vous avez les shtarot, Atkab les shtarot, Lamed Shin Tet à la fin de la troisième ligne. Donc, Liouba, c'est sa bibliothèque, est mise en vente. Yufi l'Zawjat al-Mutawaffi, pour être, dont les bénéfices seront versés à sa veuve, fi haqqiha, en tant ce qui lui revient comme héritage. Donc, c'est un médecin. Nous avons ici sa bibliothèque. C'est déjà un document extraordinaire. On voit ce qui était disponible à l'époque, ce que lisait un homme cultivé qui s'intéressait à, bien entendu, la science médicale, mais aussi à la philosophie, comme nous allons voir. Ici, il y a à peu près 150 livres, à savoir des manuscrits, fin du XIIe siècle, et évidemment, la plupart relèvent de la science médicale, sa profession. Il y a aussi des ouvrages de philosophie, notamment l'œuvre d'Al-Kindi, dans la deuxième page. Ici, vous avez en bas le prix Thaman Anha, hein, à la fin de la vente publique, c'est une vente aux enchères, combien cela a rapporté. Alors, entre autres, à droite, donc, vous avez l'œuvre de Galien, bien sûr, et entre autres, notre médecin possédait Kitab al-Rububiyya. Il avait dans sa bibliothèque la théologie d'Aristote. Et nous sommes donc, je vous rappelle, en 1170, un an avant la fin de. Nous sommes au Caire, donc un an avant la fin de l'Empire Fatimide, qui a régné en Égypte de 969 en 1171, le dernier calife étant Al-Abid, qui est mort un an plus tard. Donc nous sommes encore dans la période fatimide, à la fin de la période fatimide, et cela a de l'importance pour notre propos, étant donné que ce n'est pas par hasard que ce livre, parmi les rares livres de philosophie qui se trouvent dans cette bibliothèque, est lu par notre lettré, parce que, comme nous allons voir dans l'exposé, hier nous avons beaucoup parlé de l'importance de la théologie d'Aristote à l'époque, le renouveau d'intérêt pour ce livre à l'époque safavide en Perse, mais nous allons voir par la suite que cet ouvrage avait une importance capitale pour la doctrine ismaïlienne. C'était presque un livre de chevet, donc c'est un best-seller qui circulait et que tout homme cultivé qui se respectait se devait d'avoir dans sa bibliothèque. Alors hier, Christina a fait un très rapide survol sur l'histoire scientifique depuis à peu près deux siècles maintenant sur la théologie d'Aristote, insistant peut-être un peu trop à mon goût sur le rôle joué par Valentin Rose, l'autorité éminente en matière d'Aristoteles Pseudepigraphus, auquel vous avez attribué la découverte que la soi-disant théologie d'Aristote n'était pas de l'œuvre du Stagirite, mais paraphrase des Éniades. En fait, et c'est très important pour mon propos de le souligner, cette conclusion avait déjà été d'abord par Taylor dans une dissertation publiée en 1812, mais qui est passée inaperçue. Non, moi je voulais mettre en lumière la contribution de Salomon Munk, qui était pour les hébraïsants une très grande figure, étant donné qu'il a édité le texte original du Guide des Égarés, qui nous ramène aussi en Égypte, qu'il avait été en Égypte lui-même, et dans la contribution au gré des études philosophiques de la tradition musulmane et hébraïque est inestimable. surtout avec son livre Mélange de philosophie juive et arabe, publié à Paris en 1855, dans lequel il indique que la théologie d'Aristote accuse des similitudes très frappantes avec les Éniades. Il n'a pas procédé à la démonstration serrée textuelle, mais il a eu cette intuition. Et ce qui est plus important, parce que ça va nous permettre d'évoquer d'emblée deux versions de la théologie, il a indiqué également les nombreux écarts entre la version arabe de la théologie, divisée en 10 livres dans les recensions courantes, qui n'avions pas encore d'édition, on est 30 ans avant l'édition de Chirici. Et donc l'écart entre la transmission arabe et la traduction latine, puisque, on avait parlé très brièvement hier, la théologie avait été traduite au XVIe siècle, donc c'est l'édition de Charpentier, qui était un grand anglicanisant, du XVIe siècle, qui a été aussi le protégé du roi Charles et qui a publié un certain nombre d'ouvrages aristotéliciens et qui a été très intéressé par cet ouvrage qui semblait harmoniser la pensée du Stagirite avec les doctrines chrétiennes. Donc, il s'est basé sur une traduction qui a été faite par un dénommé Moïse Arovas, semble-t-il d'origine sicilienne, mais qui était, comme son nom l'indique, Moïse, qui était de confession mosaïque, et qui a donc donné une traduction à partir de l'arabe, de la théologie en langue vulgaire, peut-être un bas latin qui a été retravaillé par Charpentier, par les éditeurs ultérieurs, puisqu'il y a eu au moins deux éditions de la théologie, donc Rome en 1519 et une autre par Charpentier à Paris une trentaine d'années plus tard. Or, ce qui est intéressant, fait sur un manuscrit découvert à Damas. Alors, ce qui est intéressant, pourquoi le traducteur était de confession juive. Et bon, je saute tout de suite à la conclusion, mais j'annonce déjà les couleurs. Je pense qu'il y a une forte probabilité que ce texte ait été en caractère hébreu. Et c'est la raison. Donc, c'est-à-dire, comme ici, c'est du judéo-arabe ou du karchouni juif, à savoir de l'arabe, écrit par des juifs ou à l'intention des juifs qui avaient une plus grande facilité à déchiffrer l'arabe transcrit en caractère hébreu auquel ils étaient plus familiers que quand carrément en caractère arabe. Donc, si on a pressenti un traducteur juif, il y a une présomption que ce texte qui circulait en Égypte était en Syrie, pardon, était rédigé en caractère hébraïque. C'est pourquoi on a eu recours à Moïse Arovas, qui du coup a fait une double traduction, une traduction en latin qui a été retravaillée par des éditeurs européens, notamment Charpentier plus tard, et Francesco Rosi a retravaillé, mais je crois même Charpentier a retravaillé derrière. C'est la première édition de Francesco Rosi qui a travaillé avec Arovas, mais qui a poli. Donc, comme d'ailleurs c'était une longue tradition que les traducteurs juifs traduisent de l'arabe vers l'hébreu, de l'hébreu vers le latin, et qu'ils travaillent en liaison avec des traducteurs français et autres qui rendaient le latin élémentaire ou l'hébreu en latin. Donc, Arovas a travaillé avec Rossi à la fois sur une traduction latine, qui va être conservé et publié à Rome en 1519. Et il a fait également une traduction hébraïque, donc, dont quelques fragments seulement ont été préservés, localisés par Salomon Monk dans des mélanges de philosophie juive et arabe, donc encore une fleur pour Salomon Monk. Et moi-même, je les ai publiés dans un article consacré à toute cette question au début des années 80. Et dans l'intervalle, mon collègue de l'université de Bar-Ilan en Israël, Tzvi Langerman, a découvert un passage supplémentaire en hébreu qui provient sans doute de la version hébraïque d'Arovas, qui pour le moment est perdu. Alors, pour revenir à Monk, ce savant a constaté le grand écart entre la recension Vulgate, divisée en 10 livres, et la version latine, qui est divisée en 14 livres. À part ceci, ces chapitres supplémentaires sont expliqués par le fait que dans la version latine, il y avait nombre de passages qui n'existaient pas dans la recension Vulgate. Et donc, il n'avait pas de correspondance dans les manuscrits les plus communs, ceux que nous connaissons de l'Iran notamment. Alors, Monk est arrivé à la conclusion que la version Vulgate est un abrégé de la version qui a servi de base à la traduction latine. On est resté là jusqu'en 1930, lorsqu'un nouveau chapitre sur l'enquête s'ouvre avec une découverte très intrigante de la part d'un savant russe à Borisov, précisément dans la collection Ferkovitch. Vous vous souvenez, nous avons évoqué son nom tout à l'heure comme étant un des précurseurs des études génisotiques, si vous m'excusez le néologisme, dans la collection Saltykov-Chikedrin à la bibliothèque publique de Leningrad, notamment des fragments de la théologie d'Aristote dans une version qui correspondait avec la version latine. Donc c'est un article qui est apparu dans les annales de l'Académie russe des sciences en 1930, et j'apprends que l'œuvre collective de Borisov a été republiée à Saint-Pétersbourg en 2002. Donc tous ces articles-là, un premier qui parle de des fragments de l'original de la théologie, nous allons voir pourquoi il l'a appelé l'original, suivi par un autre article dans lequel Borisov met en exergue le fait que la doctrine présentée dans la version intégrale, entre guillemets, a servi à alimenter la pensée néoplatonicienne d'une grande figure de la tradition judéo-arabe, Salomon ibn Gabirol, un penseur andalou, né à Malaga, et qui a donné un ouvrage qu'encore une fois, Monk a été le premier à situer la paternité, puisque Fons Witte a été longtemps, ou Yanboa al-Hayat, selon l'original arabe, a été longtemps attribué à un certain Avis Bron, dont l'identité avait été masquée par le passage du temps. Et c'est Monk qui a établi, sur la base d'une traduction hébraïque, que le Fons Vitae qui ne subsistait que dans une version latine et dont l'original arabe avait été perdu, était en fait de la plume d'Ibn Gabirol. Et voici que Boulissov, 70 ans plus tard, prétend que Ibn Gabirol aurait été influencé par la théologie d'Aristote. Cette idée est quand même très intéressante puisque dans les prémices de la pensée hébraïque, d'abord en Andalousie, avec Salomon ibn Gabirol, avec Moïse ibn Azza, qui cite la théologie d'Aristote, qui est du XIIe siècle, et plutôt encore en Afrique du Nord, l'Ifriqiya, avec Ishaq Israili, dont des ouvrages existent de chez notre Abu Sa'ad dans sa bibliothèque, notamment qui est le Jawahir, le livre des éléments, il y a un très fort courant néoplatonicien qui traverse la pensée hébraïque. Donc les juifs s'intéressent énormément ce courant néoplatonicien du fait que nous avons de la philosophie digérée des penseurs qu'on pourrait qualifier de monothéistes qui rend la pensée grecque plus abordable, plus acceptable pour la tradition monothéiste, comme l'avait rappelé le professeur Andrés dans son intervention il y a deux jours. Borisov arrive à la conclusion que c'est la version dite longue de la théologie qui a été l'original. C'est donc cette version intégrale en 14 livres qui était la version originale, et que ce que nous avons dans la recension courte ou la Vulgate est en fait une version qui a écarté, qui a éliminé des doctrines jugées par les éditeurs indésirables, notamment ce que nous avons dans la version longue qui n'existe pas dans la version courte, c'est l'intermédiaire entre le Bari, le créateur, et l'Aql, et l'intellect, la théorie de Kalima, de Logos, donc confortait d'abord une conception créatrice de l'univers qui fait intervenir la volonté divine d'une part, et d'autre part pourrait mieux s'harmoniser avec la conception monothéiste d'une création à travers la parole de Dieu, et Dieu dit que la lumière soit. Alors donc Boulissov conclut que c'est la version longue qui est la version originale, et que plus tard des éditeurs, et il attribue ce rôle à Al-Kindi, puisque dans la version longue, autant qu'elle est conservée dans les fragments arabes, et dans la version latine, le nom d'Al-Kindi n'apparaît pas. Donc il conclut que c'est Al-Kindi qui a exécuté une révision du texte et a écarté tout le matériel volontariste, pour une raison qu'il n'explique pas, et pour l'accommoder davantage au goût du monde des lecteurs musulmans. Peut-être parce qu'il a trouvé dans cette doctrine de la Kalima une coloration chrétienne. C'est la théorie de Boulissov. Donc nous en restons là jusqu'à la découverte de Paul Krauss, Plotin dans son article de Plotin chez les Arabes, d'un texte attribué à Al-Farabi, donc, qui a déjà été évoqué, l'épître de la science divine, et suivi par une découverte de Franz Rosenthal et de Walzer, des fragments de G. Raimondelli dans le manuscrit March à Oxford, qui montrent que finalement le corpus plotinien est beaucoup plus vaste, il ne se contente pas dans les limites de la théologie. Alors, on se penche de nouveau sur les relations entre la version longue et la version courte, notamment Ahmad Badawi, dans l'introduction à son édition du Caire en 1955, prétend que c'est la version Vulgate qui est la version authentique et que, contrairement à ce qu'avait dit Borisov, le matériel supplémentaire qui se trouve dans la version longue serait des interpolations. Donc c'est le renversement de l'argument de Borisov qui va d'une version courte à une version longue et non pas d'une version longue à une version courte. Les chapitres supplémentaires seraient des interpolations. On peut ajouter dans la longue le long processus d'analyse et de réflexion sur cet ouvrage fascinant, un article capital de Salomon Pinès dans les années, à la fin des années 50, paru dans la revue des études islamiques, à laquelle je rentre. La longue recension de la théologie dans ses rapports avec la doctrine ismaïlienne, qui ajoute un élément très important pour notre exposé, à savoir cette doctrine de la Kalima est présente dans les ouvrages des Ismaïliens. Et effectivement, à partir, donc ce n'est pas présent dans la doctrine ismaïlienne ancienne, mais à partir des ouvrages de Nassafi, et nous sommes au Xe siècle, et Abou Yaqub al-Sijistani dans son Kitab al-Maqali, qui vient d'être publié à Beyrouth, mais c'est comme l'imam en stature, l'imam caché, on n'arrive pas à mettre la main dessus, on trouve dans cet ouvrage des passages pour Pinès, ce sont des passages inspirés par la théologie, mais j'ai eu l'occasion d'accéder à un manuscrit de Kitab al-Maqalid et je peux affirmer que c'est beaucoup plus que des allusions, ce sont des passages entiers qui sont empruntés à la théologie. Aristote, dans sa version longue, en particulier tous les passages qui se rapportent à la Kalima, qui ont été intégrés dans la doctrine ismaïlienne à partir du Xe siècle, et ça va devenir la doctrine officielle de l'ismaïlisme, qui est fortement colorée désormais par cette dimension néoplatonicienne. Le kalima correspond au naqiq, etc. Dans la doctrine ismaïlienne, je ne rentre pas dans les détails, mais ce qui est intéressant, c'est que, comme je l'ai rappelé au début de mon intervention, l'ismaïlisme, c'est la doctrine d'État en Égypte fatimide. Et c'est pourquoi cet ouvrage est mis en circulation. Et que les juifs qui s'intéressent beaucoup à la philosophie et ses rapports avec la révélation lisent ces ouvrages comme on peut s'en rendre compte de la lecture d'Ishaq Israeli, donc 10e siècle, al-Mahdiya en Tunisie, qui a des rapports avec l'Égypte, il est en correspondance avec Saadia al-Fayyumi. Et plus loin, un certain Ibn al-Fayyumi, Nathanael Ibn al-Fayyumi, qui, comme son nom l'indique, serait, enfin, est d'origine égyptienne, mais qui écrit au Yémen, notamment son Bustan al-Aqul, son jardin des intellects, est fortement influencé par la doctrine ismaélienne. Alors, un élément qui va nous permettre d'en venir à notre conclusion,